le client, il devient tyrannique. C'est les sodas qui les rendent furieux. Ils sont ballonnés, ils ont des brûlures.
Je parie que c'est encore mon métabolisme qui défile.
Tout ça, c'est des belles promesses. Et nous, ce qu'on veut, c'est des garanties.
Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie.
Holy Jesus. What is that?
Pensez en dehors de la box.
What the fuck is that?
Direct from the Dave, avec Dave Lagrolle.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Direct from the Dave, l'émission qui vous fait penser en dehors de la boîte au grand X. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Cécile Corbel qui travaille dans le monde de la musique et principalement dans la musique celtique. Eh bien, figurez-vous que la discrète et très humble Cécile a travaillé avec le studio d'animation japonais Ghibli pour l'OST du film Arrietty. Mais c'est aussi un peu, et ça c'est très récent, dans le monde du jeu vidéo. Elle nous raconte son histoire avec le studio d'animation, le process créatif, ses premières impressions dans le monde du jeu vidéo en tant que créatrice et aussi sa vie d'artiste en 2024. Bonjour Cécile.
Bonjour, bonjour.
Bon alors, vous êtes née à Pontcroix. Pontcroix, hein, c'est une petite ville de caractère du Cap Sizun dans le Finistère. Vous êtes harpiste, chanteuse, autrice, compositrice, interprète et j'en oublie probablement. Vous êtes connue comme le loup blanc dans le monde entier. Vous êtes c'est presque inutile en tout cas de vous présenter, mais on va quand même le faire. Mais on va le faire en parlant de deux domaines qu'on adore, nous. C'est le film d'animation. On va parler de votre collaboration avec le studio Ghibli et aussi votre collaboration dans le jeu vidéo. Alors, on va commencer donc par le film d'animation, parce que ça, c'est vraiment quand même c'est assez incroyable la façon dont vous avez approché le studio. Est-ce que vous pouvez me la raconter encore? Parce que moi, vous me l'avez déjà dit, mais je trouve que l'histoire, elle est fantastique.
Bah, elle est tellement fantastique que c'est devenu l'histoire qui a été racontée mille et une fois au moment de la sortie du film. Donc moi, j'aime toujours la raconter avec autant de plaisir parce que c'est assez improbable. Au départ, moi, je ne suis pas du tout connue au Japon, ni même très connue en France, hein. Mais je suis fan avec la personne qui partage ma vie à la scène, à la ville, avec Simon Kaby. On est fan d'animation japonaise et surtout du studio Ghibli. On a vu tous leurs films. Et puis à l'époque, donc ça remontait il y a une petite poignée d'années, même une grosse poignée d'années. On est en 2008 et je suis déjà musicienne. Je sors mon deuxième album même en indépendant. Et on fait une liste des gens à qui on a envie de l'envoyer. Alors dans cette liste-là, il y a toujours un peu la presse, des radios, des journalistes, des choses un peu de promo. Ouais. Et puis il y a les amis, et puis il y a les gens qu'on aime. Et dans cette liste, ça nous vient l'idée d'envoyer le CD aussi au studio Ghibli, parce que moi je suis déjà à l'époque assez inspirée par leurs films, dans plusieurs de mes chansons. Il y a des références directes ou indirectes à leurs histoires. Et donc, par miracle, on trouve une adresse et on envoie ce CD avec une petite carte postale qui remercie vraiment du fond du cœur pour leur travail. Mais c'est un peu un geste de fan. Comme je dis toujours, moi, dans les concerts, après les concerts, je reçois des petits cadeaux de fans. Ça peut être des dessins, ça peut être des chocolats, des choses comme ça. C'était un geste aussi innocent que ça. Et le CD, en fait, a trouvé son chemin, je ne sais pas, par un coup de hasard, de chance, il a trouvé son chemin jusqu'à la bonne adresse, mais surtout jusqu'au bureau du producteur en chef, Toshio Suzuki, qui n'écoute jamais aucun CD parce qu'il en reçoit plein, apparemment. Hein. Ça, c'est lui qui raconte ça a posteriori. Et qui, ce jour-là, a ouvert l'enveloppe et encore plus, a écouté le disque qu'il avait reçu et qui, par chance pour moi, l'a aimé beaucoup. Et ils en sont, à cette époque-là, au tout début du projet du film Arrietty. Et il a le coup de cœur et il fait écouter au réalisateur et toutes les équipes Ghibli en interne, sans que je sois au courant, valident cette idée que ça pourrait être bien d'avoir ce style de musique. Et ils me contactent à peine une semaine après pour savoir, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un CD? Parce que nous, on n'avait pas mis de contact. J'avais signé, évidemment, mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait rien du tout. Et donc, je suis tombée par terre parce que je me suis dit, ouais, c'est magnifique, ils ont reçu le disque et ils veulent me remercier. Et c'est vraiment des gens géniaux. Je savais qu'ils étaient géniaux, mais ils sont adorables, ils veulent me remercier pour le CD. Puis en fait, c'était pas du tout ça, et ils avaient une idée, une chose à nous proposer. Donc très vite, on s'est retrouvés avec Simon à composer une première chanson, qui est devenue le générique du film, c'est ça qui est rigolo. Puis deux chansons, puis trois chansons, puis 10, et au bout de 2 ou 3 mois, ils nous ont demandé de faire toute la BO. Voilà. Ah, donc tout commence par un cadeau de fan. Tu bavardes dans...
Ah non, mais c'est très bien. Vous avez fait toute... Ça, c'est une histoire quand même de fou. C'est vraiment... En même temps, c'est des histoires qu'on entend assez souvent par des artistes, des grands artistes. Ils ont presque toujours commencé avec un coup de peau comme ça. On ne sait pas trop comment. Personne n'y arrive, mais voilà, pouf, ça tombe sur eux et bim, ils deviennent de très grands artistes. Vous êtes quand même vachement humble parce que vous êtes quand même une grande artiste quand même. Tout le monde vous connaît en Bretagne.
Vous avez dit, j'étais connue comme le loup blanc, je ne suis pas sûre que c'est quand même vrai. Après, je pense que je suis connue de tous ceux qui aiment le studio Ghibli et c'est ce qui est le plus important pour moi. Parce que c'est des gens super, je le vois à mes concerts, ce public-là, il est à la fois adorable, génial. Voilà. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, comme quoi, il faut toujours être fan de quelque chose parce que ça peut déclencher des rêves.
Ouais, puis il faut oser surtout. Il ne faut pas avoir
peur. Oser, je ne sais pas, parce qu'on n'y avait aucune arrière-pensée dans notre envoi de disque, mais vraiment pas. Je pense que si on avait eu une espèce d'arrière-pensée en disant « Ah, on va présenter notre travail et, ah oui. et on trouvait ça bien », ça n'aurait jamais... Ça ne marche pas comme ça, en fait. Comme vous disiez, c'est ce qui fait que c'est injuste parfois aussi ce métier d'artiste, c'est que la chance joue un rôle. Donc ça, on n'y peut rien. Mmh. Si on ne croise pas une personne à un moment sur son chemin ou pas, ça tient parfois à peu de choses.
Bon alors, si j'ai bien compris, vous aviez sorti votre deuxième album, et puis alors là, on dit « Ok, vous allez faire de la musique pour nous ». Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé dans votre tête ?
Déjà, on n'y croit pas, et puis les Japonais ont été assez prudents. C'était la première fois que le studio collaborait avec des artistes non japonais, donc ils ont été pas à pas. Je disais d'abord une chanson, une maquette, puis deux, puis trois, pour apprendre aussi à se connaître. Ils sont venus aussi en France, ils sont venus me voir en concert, chose que je ne réalisais pas à l'époque, mais en fait, derrière la tête, ils avaient déjà l'idée qu'il y allait avoir des concerts pour la promo du film, donc ils voulaient voir à quoi ça ressemblait. Donc, on les a accueillis, toute une délégation lors d'un concert, c'était assez rigolo.
C'était quel concert ?
Alors, c'était au milieu de la France, dans le Berry, parce que c'était la seule date qui coïncidait pour eux. Donc, ils sont venus jusqu'à un tout petit village du Berry qui s'appelle Gargilès, et je jouais dans l'église avec mes musiciens. Et on avait dû leur trouver un hébergement. On était très soucieux que ce soit un truc magnifique pour les loger. Donc, on leur avait trouvé un château. Dans le Berry, il y en a plein. Et en fait, le PDG à l'époque du groupe n'avait pas dormi de la nuit parce qu'on l'avait mis dans une très belle chambre avec une tour. Enfin, vraiment le château médiéval. Et en fait, ça lui avait fait très, très peur. Il avait passé une nuit affreuse. Donc, c'est un souvenir assez rigolo.
Effectivement, oui.
Voilà. Mais donc oui, comment j'ai accueilli ça ? En fait, sans trop y croire, et donc comme c'était un peu un rêve, on a décidé avec Simon de vivre ça sans trop de stress et de faire la musique qu'on savait faire, puisque c'est ça qu'ils avaient aimé sur mon disque. Donc on n'a rien changé à la façon dont on travaillait. On a fait comme si on créait des chansons pour un projet pour moi, hein, des chansons que j'aimerais, et avec les mêmes musiciens, avec mon style, sans trop cogiter, même si c'était dur parfois. Mais je pense que c'était ce qu'il fallait faire.
Mais est-ce que la musique bretonne vous a quand même un petit peu influencé quelque part ? Ou est-ce que vous avez vraiment décidé d'écrire de la musique avec des sonorités japonaises ?
Volontairement, on a pas essayé de cogiter ça non plus. Moi, ce qui est rigolo, quand la BO d'Arietti est sortie, et même dans mes anciens albums, il y a beaucoup de Japonais qui ressentaient l'influence... celtique, et beaucoup de gens ici en France qui ont entendu des lignes mélodiques un peu asiatiques. À aucun moment on a cogité ça, mais je pense que donc moi je me suis nourrie depuis toujours en fait de la culture celtique, qu'elle soit bretonne, écossaise, irlandaise. C'est des mélodies que j'aime depuis toujours, donc je les ai sans doute dans les doigts et dans la tête. Il y a des similitudes beaucoup culturellement dans les mélodies, on va dire japonaises, mais asiatiques, orientales en général. Et les mélodies celtes, c'est des mélodies qui travaillent sur des gammes un peu similaires. Donc finalement, l'imagination peut se laisser facilement envoûté et mêlé des influences irlandaises et japonaises et plus trop savoir dans quelle culture on est. Ce qui fait la différence, c'est les instruments, en fait.
Oui, alors, de mémoire, j'ai plus du tout le titre du morceau et de la compositrice, enfin, de l'interprète, je crois, avec qui vous avez travaillé. Vous avez fait, un morceau avec une japonaise.
Ah oui, dans un projet ultérieur, ouais, avec une chanteuse qui s'appelle Misaki Iwasa.
C'est ça, et quand on écoute, on comprend bien cette espèce de mixité et qui se fait très très bien entre la musique celtique et puis les sonorités japonaises, c'est très rigolo. Ouais.
Bah, les Japonais, qui sont des grands mélomanes en général, hein, qui connaissent des fois beaucoup mieux que nous certaines des musiques qui sont des musiques traditionnelles chez nous, ils adorent la musique celtique en général, donc ils sont assez sensibles à ça. Par contre, ils ne connaissaient pas forcément la musique bretonne dans l'océan des musiques celtiques, ils ne connaissaient pas forcément la Bretagne. Mais ils ont l'oreille assez sensible aux musiques celtiques en général. Hikaru mi ni kasumu fune wa sayonara no kiteki nokoshimasu. Au creux de la colline, si j'ose m'y asseoir, sentirai-je la brise câline caresser mon Watashi no ui, sore wa melody, takaku, hikuku. C'était un endroit qui connaissait la Bretagne, il connaissait notre patrimoine vivant. Pas beaucoup, mais c'était rigolo justement pendant la longue promotion qui a suivi la sortie du film de faire jouer un peu les ambassadrices, modestement, et de faire découvrir la Bretagne. Souvent, alors ça a peut-être changé, hein, mais les Japonais venaient en France pour Paris, pour le Mont-Saint-Michel. Il y a la région de Bordeaux aussi qui est très connue. Donc ça nous a amusé parce qu'il y a une équipe deux équipes même, des deux chaînes de télé principales qui sont venues faire des documentaires en Bretagne. J'ai servi de guide pour une d'entre elles, donc c'était une petite fierté quand même. Ouais. Donc je ne sais pas s'il y a plus de Japonais qui viennent en Bretagne maintenant, mais ça me ferait plaisir de le savoir.
Pour les Japonais qui sont venus ici, ils en pensent quoi? Et puis quand vous leur avez fait écouter un petit peu de notre musique et partager un petit peu de notre patrimoine à nous, ils en pensent quoi?
On avait fait tout un planning. On était passé par la forêt de Brocéliande parce qu'il y a ce côté légendaire avec lequel on peut tracer aussi beaucoup de ponts avec la culture japonaise. Dans Princesse Mononoke du Ghibli, il y a ce dieu cerf que nous, on a aussi dans les légendes celtes, avec notre dieu cerf à nous, qui parfois est un peu Merlin, on ne sait pas. On les a emmenés aussi au bord de la mer pour manger des fruits de mer, qui c'est aussi un parallèle qui est facile à tracer avec le Japon, où ils sont assez forts en gastronomie quand même. Et puis on les avait emmenés rencontrer le Bagad, c'était le Bagad Quimper, puisque moi je suis de Pointe-Finistère, donc ils avaient assisté à une répétition, ils avaient vu un cercle de danse répéter aussi, donc ils ont été assez sensibles à ça. On a été manger des crêpes, voir la recette des crêpes. Je ne me souviens plus tout ce qu'on avait fait. Mais côté musique, oui, on leur avait montré le Bagad, ça leur avait bien plu.
Alors vous avez été obligé d'apprendre un petit peu le japonais, j'imagine.
Mon compagnon Simon, qui est beaucoup plus doué en langue que moi, lui, il se débrouille bien. Moi, je ne suis pas très douée. J'ai appris à le chanter, en tout cas à le prononcer du mieux possible. Apparemment, pas trop mal, parce qu'il y a des Japonais qui pensaient vraiment que c'était une Japonaise qui chantait dans le film. Mais je ne parle pas... Je ne le parle pas au quotidien. Là, j'étais au Japon il n'y a pas longtemps. Je peux décoder des trucs simples, mais je ne saurais pas parler.
Et ça fait partie des défis, j'imagine, rencontrés pour la composition des musiques du film.
Au départ, pas forcément, parce que ça a été une question au début. Parce que je devais composer que des chansons. Dans un premier temps, il y a eu une vingtaine de chansons. Et après, c'est devenu la BO, c'est devenu des morceaux instrumentaux, hein, la plupart d'entre eux, mais de savoir la langue dans laquelle j'allais chanter mes chansons et j'allais écrire mes textes. Et en fait, on s'est arrêté sur l'anglais. Donc, toutes les maquettes, au départ, c'est en anglais. Et au fur et à mesure, quand on a décidé vraiment que la chanson d'Arietti, ce serait le générique, on a lancé comme un défi de le faire en japonais. Finalement, j'ai dû bien travailler parce que c'est ce qui est devenu la version officielle.
D'accord,
en japonais. Au départ, c'était une chanson qui était prévue en anglais.
Moi, je ne sais pas du tout. J'ai pas vu le film. Je ne sais même pas si...
Ok.
Ah non, c'est vrai, je n'ai pas vu du tout.
Il n'est pas trop tard.
Elle n'est jamais trop tard pour rien, de toute façon, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez chanté en plusieurs langues?
Oui, alors, donc le film, quand il est sorti au Japon, il y a beaucoup de chansons qui sont restées en anglais à l'intérieur du film. Le générique en japonais. Et après, selon les sorties locales dans différents pays, j'ai chanté le générique dans les langues des pays. Donc, en français... Pour la France, exercice pas trop difficile.
Oui.
Y a eu des adaptations, alors c'est pas moi qui les ai faites, mais en italien pour l'Italie, en espagnol pour l'Espagne. J'ai même chanté une version bretonne, parce que nous, on est fous les Bretons, on sort les films adaptés en breton. Il y a une association qui fait vraiment un beau boulot là-dessus. Donc c'est le premier film du studio Ghibli qui est sorti en breton. Et puis, il y a eu d'autres pays, mais j'oublie. Ah bah, par contre, il y a eu des versions pour l'Asie, notamment en Chine ou d'autres pays, où là, ils ont pris des chanteurs locaux pour rechanter. Sans doute, ils se sont dit que ça allait être un peu complexe pour moi. Voilà. Donc, la chanson, elle existe dans plein de langues.
Et c'est quelle association ?
En allemand aussi.
En allemand aussi.
L'association, j'ai le nom qui, je voulais justement vous le dire, ça m'embête. Ils sont en plus basés dans le Finistère et ils adaptent beaucoup de films, pas que des dessins animés, hein, en langue bretonne. Pour que les enfants des écoles bilingues ou diwan les voient au cinéma notamment, et même des séries. Enfin, ils font un gros travail pour traduire en breton.
On retrouvera.
Oui, vous allez trouver.
Alors, c'était quoi les gros défis de ce travail avec ce studio?
Les gros défis, bah, être à la hauteur, c'est sûr, mais on avait décidé de ne pas se stresser. Et le défi principal, c'est la quantité de boulot, parce que c'est presque sur 2 années de ma vie. Pas en continu, hein. Je faisais d'autres choses, je pouvais faire mes concerts et mes propres projets quand même, hein, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours. On crée en France, mais on va souvent au Japon, parce que quand Ghibli nous contacte, ils n'ont pas du tout le film qui est fait, ils ont le scénario et les premiers décors, les dessins des personnages, mais le film n'existe pas. Donc en fait, régulièrement, on doit se rendre à Tokyo pour voir les progrès du film et les débuts de l'animation, les personnages qui vont se mettre à vivre, et puis des réunions pour décider, faire des choix. Donc ça, c'est un des gros défis, c'est que c'est un projet de longue haleine. Et puis le plus gros défi derrière, je pense que ça a été la promotion du film, parce que c'était un vrai marathon. Et moi qui n'avais pas forcément l'habitude de cette échelle de notoriété et de promotion, donc c'était un peu un changement d'échelle brutal le temps de la sortie du film, voilà.
Ouais, c'est vrai, ça a été difficile mentalement ou vous avez plutôt bien accusé le coup?
J'étais hyper bien entourée parce que c'était très bien organisé. Il y avait tout le temps des gens, la traductrice, les équipes, mes musiciens qui sont venus. Mais c'était intense au sens où il y avait des choses tous les jours, surtout autour de la sortie où on a accompagné le film dans certains cinémas. On a fait tout l'archipel comme ça je crois que la promotion pour nous sur place, c'était pendant 2 mois. Et donc, parfois, il y avait 7 cinémas dans une même journée. Donc, 7 fois, installer la harpe, jouer la chanson, faire les interviews, repartir, etc. Donc, c'est très sportif.
Et comment ça se passe alors quand on, justement, quand on rentre dans le process créatif? D'ailleurs, on rentre quand en tant que musicien dans le process créatif d'un film d'animation? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait déjà des morceaux de storyboard, quelques extraits d'animation, c'est ça, tout n'est pas vraiment terminé.
Mais... En fait, je pense qu'il y a tout qui peut exister. Parfois, les musiciens, les compositeurs, ils arrivent un peu en dernière roue du carrosse. Le film est fini, on leur demande de créer la musique parce que tout le film a été fait avec des musiques temporaires. Et le compositeur arrive à la fin, il doit remplacer ça et faire la musique tout ça à la fin. Personnellement, je trouve ça affreux. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Ghibli a travaillé avec nous, c'est-à-dire nous faire entrer dans le projet au tout début, quand tout est encore vierge de musique. Et on crée des chansons, et à la limite, les maquettes, les chansons existaient avant même qu'il y ait l'animation qui commence. Donc souvent, les dessinateurs nous ont dit qu'ils dessinaient, ils avaient déjà les chansons au casque, ils écoutaient les maquettes. Pendant qu'ils dessinaient, je sais qu'on a fait une chanson pour le jardin, il y a un grand jardin dans le film, bah, quand les dessinateurs dessinaient ce jardin, ils écoutaient la chanson du jardin, ce qui est assez génial parce que ça fait un cercle vertueux pour que il y a une sorte de symbiose dans l'histoire, la musique, les personnages, les décors. Et je pense que c'est une façon idéale de bosser. Là, j'ai la chance de retravailler pour de l'animation et on fait un peu la même chose pour un film qui va sortir dans assez longtemps.
On
est en train de travailler aussi depuis le début du film et c'est assez génial, je pense.
Vous avez déjà une petite musique en tête, il l'écoute pendant qu'il dessine, vous récupérez à nouveau les dessins et puis vous dites « Ah, finalement, je ne voyais pas ça comme ça, ça me procure telle émotion, donc je vais retravailler ma musique. » C'est un peu comme ça
En fait, pour Ghibli, ils envoyaient les dessins, ils envoyaient le thème, en fait, ils nous envoyaient au fur et à mesure la liste de ce dont ils avaient besoin, à savoir au départ une chanson par personnage et une chanson par décor et quelques chansons spécialement thématiques pour telle ou telle scène. Donc ça a fait une sorte de liste de chansons et j'insiste sur le mot chanson parce que toutes elles ont eu des paroles au départ. Il fallait écrire musique et chansons. Toutes elles ont été maquettées comme ça. Et en supplément pour exprimer l'émotion qu'il voulait pour chaque track, le réalisateur envoyait une sorte de petit poème style haïku, vraiment, c'est cette longueur-là, qui dit en quelques bribes de phrases, de mots bien choisis, qui donne vraiment l'émotion, la saveur de ce qu'il a envie que la musique exprime, quoi. Et donc, on fait, pour chaque poème, chaque personnage, etc., on fait une chanson et on envoie la maquette. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la liberté artistique que Ghibli m'a laissée parce que quasiment rien n'a été jeté de nos propositions. Alors bien sûr, entre la maquette et la musique finale, et après, on retravaillait beaucoup pour enregistrer les musiciens, mixer, etc. Mais sur les mélodies qu'on a proposées en maquette, elles ont presque toutes été gardées.
Alors, par rapport à votre process de création, est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'au final, c'est peut-être même plus simple?
Alors, c'est les deux. C'est à la fois plus simple parce que l'inspiration, on nous la donne. C'est pas un truc qu'on doit rêver, nous. On nous amène le rêve et une sorte de commande qui décrit l'émotion. Donc, on a un guide. Et c'est plus difficile à un moment donné quand on doit se coller à des time codes, typiquement dans le film, où on a composé quelque chose, mais en fait... Il faut le faire rentrer particulièrement sur une durée ou sur quelque chose. Donc, parfois, il y a beaucoup plus de travail. On a la mélodie, mais pour que ça matche à l'image, on passe 10 fois plus de temps pour réenregistrer, refaire, caler. Ça, c'est la contrainte qu'on n'a pas quand on écrit une chanson. Parce que pour une chanson, on est libre du temps. On est maître du temps.
Oui, parce qu'il faut que la musique suive l'image.
Parfois oui, parfois non. Chez Ghibli, si vous êtes fan de leurs films, souvent, elles laissent beaucoup la musique se dérouler par-dessus l'action. Ce n'est pas des films, de toute façon, où il y a des bagarres ou des choses où la musique est là pour souligner chaque geste. Donc, c'est des films où la musique, elle a un rôle vraiment enveloppant, envoûtant. Par contre, pour d'autres projets où je travaille, où j'ai travaillé, là, on est à l'image. Ça veut dire que quasiment à chaque seconde, on doit faire attention à l'action qu'il y a devant nous visuellement. Donc la musique doit suivre l'action. C'est assez plus difficile, ça.
Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps, du coup, pour écrire tout cet album?
Le travail avec Ghibli, c'est presque 2 ans. Mais c'est pas 2 ans en continu, c'est 2 ans sur la durée, avec tous ces échanges, tous ces voyages et tous ces enregistrements jusqu'au définitif. Donc si tout était compressé, ce serait peut-être 6 mois en continu, je dirais, de travail.
Et parmi les 10 morceaux alors que compose cette OST, c'est lequel dont vous êtes le plus fier?
Alors, il y a plus que 10 morceaux, me semble-t-il. Dans la BO, il y a les mêmes tracks existent dans plein de versions. Donc, au final, je ne sais pas comment il y a un track sur l'OST. Je pense que c'est plus que ça. Mais c'est le générique qui gardera une place toujours dans mon cœur parce que c'est la première maquette qu'on a faite et c'est celle qui a été le plus mise en avant. La chanson d'Arietti, c'est celle que je chante même toujours aujourd'hui à chaque concert parce que je sais que la plupart des gens qui viennent m'écouter, ils attendent que je la chante. Donc, elle reste toujours, elle fait toujours partie de ma vie. Donc, je dirais que c'est celle-là la plus importante.
Et comment ça a influencé votre carrière, tout ça?
Ça a tout changé, on peut dire ça assez facilement. Déjà, je n'étais pas du tout connue en Asie et ça m'a fait beaucoup connaître. Et depuis, j'ai la chance d'y aller assez souvent. Et puis, même en France, je pense que j'étais beaucoup, beaucoup moins connue. Et la sortie du film, du fait qu'il ait quand même bien marché en France, il y a eu beaucoup de promotions. Il y a plein de gens qui ont connu ma musique en France. Donc, je pense que ça a changé ma vie tout court même.
Et du coup, ça vous a un petit peu boosté dans le monde de l'animation ou pas?
Il y a beaucoup de réalisateurs que je rencontre maintenant au fur et à mesure qui me disent qu'ils m'écoutent et qu'ils connaissent ce que je fais. Mais pendant un long moment, je me suis sentie un peu dans ma tour d'ivoire parce que bêtement, on s'était dit on va peut-être avoir d'autres portes qui s'ouvrent dans l'animation. Mais il y a eu peut-être 5-6 années où il ne se passait rien. Mais je pense qu'on était un petit peu avec cette aura Studio Ghibli où presque les gens n'osaient pas trop nous contacter parce qu'on devait être sûrement intouchable, j'en sais rien. Mais depuis, je suis contente parce que je peux retravailler pour des projets. Alors, on a travaillé sur d'autres musiques de films. Et là, beaucoup pour l'animation ces temps-ci, donc je suis très contente.
Vous avez fait quoi?
Alors, il y a quelques années, un truc beaucoup moins connu qui s'appelle Terre des ours, qui est un documentaire animalier français, mais qui est sorti à l'international, mais qui n'a pas trop marché. Mais nous, on avait fait une belle BO. Et puis depuis, il y a eu d'autres projets. Et là, c'est vraiment depuis 2-3 années où on a pas mal de choses qui sont en chantier, certains dont je ne peux pas parler parce que c'est encore que l'étape des ce qu'on appelle les teasers. Donc, c'est des versions très courtes que les réalisateurs font avec leurs équipes pour trouver des financements. Donc, c'est des films qui sont dans l'air, mais qui ne sont pas validés. Il y en a plusieurs en cours. J'espère qu'ils ne vont pas tous se valider en même temps, sinon je n'y arriverai jamais. Mais là, il y a notamment un long métrage qui est super chouette parce que ça fait plus de 10 ans qu'on devait être sur ce projet et ça vient de se confirmer il y a quelques mois. Un long métrage dérivé d'une BD qui est assez connue qui s'appelle Les Légendaires, qui est faite par un auteur-dessinateur qui en plus est devenu un ami qui s'appelle Patrick Sobral. Et donc on fait la musique du long métrage dérivé de la BD là en ce moment. Les légendaires, alors je pense que si vous avez entre 10 et 20 ans, vous avez déjà lu une BD des légendaires. Mais c'est de l'héroïque fantasy, le trait peut évoquer un peu le manga, mais c'est pas tout à fait manga, c'est vraiment BD. Et c'est des 5 héros qui vont vivre des aventures, alors il faut s'accrocher parce qu'il y a... Il y a beaucoup de tomes et ils vivent beaucoup d'aventures. Et il y a en plus des hybridations, des préquels, des... Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est des guerriers très puissants, mais qui se font jeter un sort et toute leur planète, et eux inclus, redeviennent des enfants. Et ils sont prisonniers dans des corps d'enfants. Et donc, ils vont vivre des tas d'aventures pour déjouer la malédiction. C'est ça le speech de base.
Ouais, et puis là, c'est un petit peu plus, speed au niveau musical. C'est comment par rapport à...
Là, justement, par rapport à ce que moi j'avais fait pour Arietti, il y a beaucoup plus de scènes d'action parce qu'évidemment, on est dans l'heroic fantasy, donc il y a des bastons un peu quand même. Et là, du coup, je suis obligée de changer certaines façons de travailler. Je ne compose pas des chansons, mais on compose directement à l'image des choses instrumentales, un peu plus épiques. Mais j'aime bien parce que c'est un vocabulaire que j'aime bien manier et que moi, je ne peux pas tellement faire dans mes formats chansons, d'aller vraiment sur des grands espaces ou des sons, des tambours énormes, des choses, voilà, de se lâcher un peu là-dessus.
Si on regarde un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment dans votre collaboration avec les studios d'animation ?
Oh, différemment ? Bah, sans doute, j'aurais été un peu plus, mais ça, c'est mon défaut de toujours, essayer d'aller me vendre dans les festivals d'animation, etc., de rencontrer les producteurs et tout, mais je suis absolument nulle pour ça. D'ailleurs, l'aventure Ghibli, je ne l'ai pas décrochée en étant avec ce caractère-là. Donc, je pense que si c'était à refaire quand j'avais 25 ans ou 30 ans, j'aurais été me montrer partout, etc. Mais maintenant, j'avoue que j'ai la flemme de faire ça, donc je préfère... s'il y a des beaux projets qui arrivent, c'est très chouette, voilà, mais je n'irai pas dans les festivals genre Annecy, Cannes, montrer ma tête, etc. Essayer de me vendre, voilà.
Ouais, c'est pas votre truc.
Non, je serais pas douée à ça, je pense. Si j'avais dû refaire, j'aurais essayé de faire ça.
Bon, on va faire une petite pause musicale, Cécile. On va rester dans le monde des enfants. On va écouter une reprise faite par des enfants du titre 46N2 du groupe de metal Tool, enregistré par la Fondation de Musique O'Keeffe. Et je sais que vous aimez le métal. We'll be right back. retrouve donc Cécile Corbel et on va parler un petit peu de jeux vidéo cette fois. Et oui. Bah oui, le jeu vidéo, Cécile, elle en a fait aussi un petit peu. Ah, c'était Simon.
Ouais, voilà, je l'ai chassé.
Je l'ai à peine vu parce que j'étais en train de lire mes notes. Bon, Cécile, vous avez fait du jeu vidéo et comment vous avez été introduite dans le monde du jeu vidéo ? J'imagine que vous n'avez pas envoyé un process de jeu vidéo en disant « Regardez, j'ai fait la musique là-dessus, est-ce que ça vous plaît ?»
Non, en plus, moi, personnellement, ce n'est pas le cas de Simon parce que c'est un ancien… là, j'aurais dû l'inviter, en fait.
Oui.
C'est un ancien du jeu vidéo. Il a été directeur technique longtemps dans son ancienne vie. Donc, lui, il connaît les jeux vidéo. Et puis, mon petit garçon aussi joue aux jeux vidéo. Mais moi, je ne suis pas du tout joueuse. Donc, c'est un monde dans lequel j'arrive en invité total. Mais je pense qu'il y a des passerelles entre ma musique et l'animation. Et entre l'animation et le jeu vidéo, il n'y a qu'un pas. Surtout qu'il y a des très beaux jeux maintenant qui sont avec des univers fantasy forts et surtout dans une palette qui pourrait être un peu style Ghibli. Donc, il y a une certaine compatibilité naturelle, je crois. Et beaucoup de gens m'ont souvent dit « Ah, tu devrais faire de la musique de jeux vidéo. » Donc, on a eu cette chance, je ne sais pas si c'est une chance, il y a quelques années, on a créé toute une bande-son pour un jeu qui est dans un tiroir pour l'instant, qui s'appelle Mouna, et c'était un studio français qui s'appelle Libellule Digital. Alors, je ne sais pas ce que deviennent nos musiques, mais en fait, on avait créé tout un univers. C'est un jeu avec plusieurs familles de personnages, plusieurs mondes, et on avait créé toutes les musiques des mondes et une BO dont je suis super fière, donc j'espère que ce jeu va sortir un jour. Et puis depuis, on retravaille, il y a plusieurs projets aussi dans l'air, certains dont je ne peux pas parler, mais un dont je peux parler, qui mêle le monde de l'animation et du jeu vidéo, puisque depuis quelques mois, et ce n'est pas fini, on travaille sur un film dérivé du jeu Genshin Impact, qui va sortir bientôt. On crée la musique de ce film d'animation qui raconte... Alors, Genshin, moi, je ne connaissais pas avant, donc je ne commente pas, mais vous devez connaître ce que c'est, ce jeu.
Un tout petit peu.
Oui. Ouais. Bah, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de millions de joueurs, donc je me sentais un peu bête. Donc, c'est un éditeur de jeux chinois. En plus, ça connecte aussi avec d'autres projets que j'ai en Chine, donc je suis super heureuse. On fait la musique depuis quelques mois, voilà, C'est un film un peu comme les films qu'on voit in-game dans certains jeux. Parfois, le jeu s'arrête et on est en mode animation à l'intérieur du jeu pendant quelques minutes. Là, c'est un peu plus long, hein, mais c'est ce genre de projet. Donc, je suis assez fière déjà parce que c'est un super studio qui produit et c'est une belle histoire. Et là, depuis 2-3 jours, j'ai le droit d'en parler. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on en se parle.
Eh ben oui.
Aujourd'hui et pas avant, parce que c'est une jolie porte qui s'ouvre là vers cet univers-là. Alors, du coup, mon fils joue à Genshin Impact, pas moi, mais j'ai été voir un peu le jeu. C'est un jeu qui est magnifique, justement, dans une esthétique un peu Ghibli. Donc, tout fait du sens. Voilà.
C'est quoi la différence avec le jeu vidéo et puis, du coup, le film d'animation ?
Alors là, le film d'animation autour de Genshin Impact, je retrouve quand même les codes du cinéma d'animation. Par contre, pour le jeu Mouna, il y avait des contraintes supplémentaires qui sont liées uniquement au jeu vidéo qui annule par ailleurs, puisqu'il y a des musiques qui sont diffusées pendant que le joueur fait ses déplacements, ses quêtes, ses aventures, ses combats. Et la musique doit savoir switcher. Comment expliquer ça facilement ? Parce qu'en plus, quand on n'est pas joueur soi-même, mettons que vous gagnez votre combat, il va falloir que la musique évolue et se dérive vers une sorte de couche B dans la musique qui exprime votre victoire. Si vous allez perdre, il va falloir qu'elle exprime votre défaite. Donc en fait, pour le jeu vidéo, on doit travailler beaucoup avec des histoires de layers et de superpositions et de déclenchement à un point qui est aléatoire par défaut, qui va déclencher en fonction de ce que fait le joueur. Donc, c'est une façon un peu différente de penser. Heureusement, j'avais Simon pour aider ça. Par exemple, on devait aussi créer des musiques pour ce jeu qui sont des musiques qui vont être en boucle parce qu'elles vont accompagner le joueur parfois pendant 15 minutes. Et pour autant, il ne faut pas être ennuyeux, il ne faut pas être chiant, mais il faut rester un peu dans la tête, mais en arrière-plan. Donc, il y a plein de petites contraintes comme ça qu'on n'a pas quand on crée une chanson ou quand on crée pour un film.
Ah oui, donc là, c'est clair.
C'est un peu plus technique.
Ah oui, c'est technique, c'est pas forcément plus difficile.
C'est un cahier des charges plus contraignant, mais en fait, dans la contrainte, parfois, ça oblige à être aussi plus créatif. Donc, c'était plutôt rigolo à faire, de faire une musique dont on sait qu'elle va parfois être écoutée, c'est une boucle de 3 minutes, et qu'elle va être 6 fois de suite dans les oreilles du joueur, voire pendant 2 heures. Et donc de pas être chiant tout en étant en arrière-plan. Voilà. Donc il y avait plein de contraintes comme ça. Puis le côté victoire défaite aussi, c'était amusant de peser, de mettre un thème. C'est le même thème, mais il est travaillé différemment pour que d'un côté il soit joyeux et plein de confiance, et de l'autre, bah, on est mort ou on a perdu. Mais pourtant, c'est la même mélodie au départ. Donc, c'est comme des exercices, en fait.
Selon vous, comment la musique, elle permet d'améliorer l'expérience d'immersion dans un jeu vidéo ?
Mais je pense que c'est la musique, en général, c'est la seule qui peut, dans un projet, que ce soit un film, un dessin animé ou un CD que vous glissez dans votre platine, c'est la seule qui va permettre d'amener l'émotion, parce que avec l'image, avec l'action, bah, on vit des trucs, mais la seule qui va pouvoir vous porter vers un truc plus grand que vous-même, il n'y a que la musique qui sait le faire dans un film.
On fait comment ?
On essaie de faire de son mieux. Moi, je suis presque persuadée que c'est la mélodie qui nous déclenche les émotions. Donc moi, j'essaye en tout cas de faire des jolies mélodies.
Est-ce que ça vous plaît de composer pour le jeu vidéo ou pas ?
Bah, je ne peux pas dire que je sois une experte, parce que là, on détaille un peu ce que j'ai fait, mais je n'en ai pas fait 10 000. Moi, ça me plaît. Ce qui est dommage en ce moment, depuis quelques années, en France, il y a moins de compositeurs français qui font du jeu vidéo que dans le reste du monde, parce qu'il y a toujours ces histoires de droits d'auteur qui me font peur à certains éditeurs de jeux vidéo. Parce que la France est très attachée à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur, ce qui fait que bah, pour un film, s'il est diffusé dans un cinéma, il y a un tout petit prix de votre billet de cinéma qui revient au compositeur. Ce qui n'est pas le cas pour le jeu vidéo. L'éditeur de jeu, il va peut-être vendre 1 million de copies, 10 millions de copies de son jeu. Le compositeur, c'est pas prévu qu'il touche. Or, les compositeurs français, on est tous ou plus ou moins affiliés à la SACEM, et ça fait très peur aux éditeurs de jeux vidéo à l'international, ce qui fait que ça freine un peu. Certains, moi je sais qu'il y a des projets que je devais faire notamment aux États-Unis, et ça a foiré à cause de ça, parce qu'il y avait cette notion de droit d'auteur. Donc c'est un peu dommage ça.
Ah oui, d'accord, mais je ne savais pas
du tout. C'est un sujet, on trouve des tas de choses sur le web là-dessus, beaucoup de choses vraies, d'autres choses fausses, mais c'est en train de bouger justement, donc c'est pas mal.
Ah non, mais je ne savais pas du tout, j'ignorais ça complètement. Quand en France, on avait une spécificité sur les droits d'auteur, enfin une espèce de spécificité sur le
droit d'auteur. Ah oui, c'est très français. Ouais. Dans les autres pays, en fait, un compositeur peut vendre une fois pour toutes son travail, et puis après, il ne touchera pas de droit, que ce soit un échec ou un succès, le projet, quel qu'il soit. En France, il y a forcément la notion de droit d'auteur qui est impliquée, donc ça fait très peur aux éditeurs de jeux vidéo, parce qu'eux, ils n'ont pas ce modèle-là, en fait.
Ouais, on peut pas faire des clauses de contrat ou un truc comme ça, c'est pas possible.
On devrait, justement, c'est en train d'arriver d'exclure ou de trouver des arrangements, mais bon, c'est en ce moment, ça bouge beaucoup ça.
Bon,
donc, je pense que j'ai loupé des projets jeux vidéo à cause de ça, mais l'histoire n'est pas finie.
Non, bah non, parce qu'en plus avec le nombre de projets qu'il y a, le nombre de studios qui ouvrent dans le jeu vidéo en ce moment, je pense que.
Et puis le jeu et en vidéo, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus gros que l'industrie musicale ou même l'industrie du cinéma. Donc,
Réunis même.
Oui, je pense. Hein.
Ah, c'est sûr, hein, c'est même une certitude. Ouais. J'ai plus les chiffres, mais c'est une certitude. En tout cas, je me pose une question. Alors, vous utilisez une harpe, c'est votre instrument de prédilection ?
Ah ben, c'est mon seul instrument, puisque c'est le seul dont je sais jouer à peu près correctement. Donc, c'est avec lui que je compose. Ouais. Après, il se retrouve pas. Il n'y a pas forcément de la harpe sur toutes les musiques que je crée, mais la maquette de base, le tout petit départ, là, il y a forcément la harpe au départ. Des fois, elle reste, des fois, elle dégage selon l'envie qu'on a pour l'instrumentation finale. Mais oui, je crée sur la harpe.
Alors, je sais qu'il existe des harpes un petit peu numériques, on va dire, où elles ont des sonorités un petit peu particulières. Alors, il y a une artiste qui travaille avec Plage Magnétique à Brest. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Pas forcément, mais je vois. En fait, c'est des harpes synthées. Finalement, oui. On connecte chaque corde. Il faut une harpe électrique. Et ouais. Chaque corde peut devenir un synthé. Et donc, on peut relier à des banques MIDI. Et puis... quand on effleure la corde, elle fait un son qui n'est pas celui d'une harpe, mais un son autre. J'ai jamais trop expérimenté ça encore. Par contre, en studio, on travaille beaucoup avec le midi, donc moi, je crée beaucoup des sons en midi avant de les faire enregistrer par les musiciens.
Et ça vous dirait d'essayer d'autres trucs ?
De l'harpe ?
Ouais, pourquoi pas ?
J'ai déjà pas fini d'apprendre cet instrument diabolique.
C'est pas vrai, je crois pas.
Mais par contre, j'apprends de plus en plus justement à manier les claviers pour composer à l'image et composer en midi. Jouer une flûte au clavier avant de faire enregistrer un flûtiste, c'est des choses que je fais en ce moment, par exemple.
Ouais, c'est quelque chose, le numérique, tout ça, c'est quelque chose qui ne vous branche pas. Vous préférez tout ce qui est, on va dire, analogique, le vrai instrument, en fait.
Pour le style de musique qui, moi, me fait vibrer, c'est vrai qu'à terme, là, par exemple, le film légendaire sur lequel on travaille, on fait des maquettes où parfois il y a 80 pistes, mais les instruments lead, ça va être à terme des flûtes, des mandolines, des que sais-je encore. Pour l'instant, ils sont joués synthé, mais à terme, moi, j'aime toujours les remplacer par un vrai soliste. Ouais. Par contre, il y a des instruments qui sont très beaux et qui peuvent rester en digitaux, des sons, des pads, des sons planants, etc. Ça peut rester digital jusqu'au bout, mais... Une flûte, ça me ferait mal au cœur de la laisser en synthétique, même s'il y a des super beaux samples. Maintenant, il y a des choses qui font l'illusion. On pourrait croire que c'est un vrai flûtiste, mais j'aime bien faire jouer un instrumentiste.
Ouais, alors, je vais poser une petite question parce qu'on parlait des droits d'auteur, pour que les gens se rendent compte un petit peu. Ça veut dire quoi être artiste en 2024 ?
Bonne question. Alors, je pourrais parler que artiste musicien parce que c'est encore différent pour quelqu'un qui fait de la BD ou que sais-je. C'est des cas de figure. Surtout en ce moment, pour les amis dessinateurs, graphistes, photographes, ça devient un peu délicat avec les intelligences artificielles qui commencent à déferler de partout sur leur terrain réservé jusqu'alors. Pour la musique, on est encore assez protégé. Être artiste en 2024. Je ne sais pas, c'est sans doute être assez polyvalent et donc savoir manier, on en parlait, aussi bien un ordi, le digital, que d'avoir gardé un lien avec, d'avoir les pieds sur terre et de savoir jouer d'un instrument. C'est aussi, pour ma part, garder aussi un lien avec le public en direct le plus possible, même si on est souvent enfermé en studio. Moi, c'est hyper important pour moi d'aller faire des concerts dans des petits lieux ou des grands lieux, mais ça restera un truc important. Je pense plus on diversifie son activité, plus on est armé pour continuer ce métier. Donc, après, j'attends de voir ce que ça donne avec l'IA, les musiques générées par IA. Pour l'instant, je n'étais pas très convaincue. Mais je crois que rien ne remplacera de toute façon la personne qui joue vraiment d'un instrument et qu'on a envie d'aller écouter.
Ouais. Et diversifier votre activité, c'est quelque chose qui était toujours un petit peu quelque part dans le coin de votre tête, ou alors il y a un moment donné vous êtes dit bon là j'ai vraiment plus le choix, je vais être obligé de le faire.
Moi de toute façon mes premiers contacts avec ce métier, ça a été la scène et ça a été dans des pubs et ça a été dans la rue. Moi j'ai commencé en jouant dans la rue, donc je pense que c'est ce qui fait mon point de départ, c'est vraiment ce lien au plus simple avec le public. Donc à l'époque avec même pas de sonorisation, avec donc ça a forgé qui je suis, ça, au départ. Donc de toute façon, ça c'est le point de départ. Après, composer pour l'image, c'est ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est le destin, la chance qui a mis ces projets là pour moi, et je m'y suis lovée avec je pense facilité et bonheur. Donc ça s'est rajouté, mais la scène, ça restera toujours toujours présent.
Et j'arrête pas de regarder votre harpe là parce qu'on a une visio. Elle est vraiment belle. Juste par curiosité, combien ça vaut une harpe comme ça ?
Oh non, c'est pas très cher. Hein. Donc déjà la harpe celtique, c'est la cousine pauvre de la grande harpe qu'on voit dans les orchestres. Une harpe d'orchestre, ça commence à chiffrer. C'est un objet beaucoup plus technologique ou précieux ou j'en sais rien. Là, c'est la harpe celtique, c'est la petite sœur. Et celle-là, c'est une harpe de luthier. Donc, peut-être elle vaut un peu plus cher. C'est un luthier qui est à Quimper, qui s'appelle Marin Lopiteau. Et alors, bien sûr, c'est cher, mais à la fois, c'est pas cher. Je pense que celle-là, elle coûte entre 3 et 4 000 euros. Donc, ça reste une dépense. Il ne faut pas acheter ça, dire je commence la harpe, je m'achète ça. Ça ne serait pas de sens. Donc, il y a plein de jolies façons de commencer la harpe en louant un instrument pour quelques euros par mois. On loue une petite harpe. C'est comme ça que j'ai commencé aussi. Hein. Et puis le jour où on a envie de vraiment aller plus loin, il y a des luthiers et des harpes un peu plus belles, ou voire même sur mesure comme celle-là. Mais ça reste des dépenses abordables.
Ouais. Alors vous dites que c'est la harpe du pauvre. Pourquoi ? Elle a une histoire, cette harpe ?
La harpe celtique, déjà, elle est plus petite que la grande harpe d'orchestre. Elle a moins de cordes, moins d'octaves, elle est moins puissante, elle est moins grande. Une harpe d'orchestre, ce serait presque deux fois plus haut. Et surtout, la harpe d'orchestre, elle a un mécanisme caché de pédales dans la caisse de résonance qui permet de... Je vais essayer d'expliquer bien. Sur un piano, vous avez des touches blanches et des touches noires. La grande harpe d'orchestre, elle peut jouer toutes ces notes-là, les blanches et les noires. La petite harpe celtique, c'est comme si elle était enfermée dans une gamme plus réduite, comme si elle avait à sa disposition que des touches blanches à un instant T. Et pour changer un peu sa gamme, si elle veut aller attraper un dièse, il faut qu'elle... C'est peut-être trop loin là sur l'image, mais que je manipule un petit levier à la main pour changer la hauteur de ma corde, pour la tendre ou la détendre un peu, d'un demi-ton. Et donc ça, ça se fait, si on est vraiment sportif, on peut le faire à l'intérieur d'un morceau. Mais en général, avec l'harpe celtique, on joue un répertoire de musique, on en parlait tout à l'heure, des musiques traditionnelles, des musiques irlandaises, des musiques qui travaillent dans des gammes diatoniques, donc on va dire des gammes à touches blanches de piano.
D'accord. Et c'est vieux comme instrument ?
Alors, il y a des harpes. La harpe celtique, je ne vais pas vous la dater précisément, mais la harpe, le concept d'instrument, c'est assez ancien parce qu'on en a trouvé dans des tombes égyptiennes de moins 3000 ans. On a trouvé des harpes en Mésopotamie. Donc, l'instrument lui-même, il est plutôt primitif. Et après, chaque pays du monde a fait évoluer sa forme de harpe. Donc, il y a des harpes en Asie. Hein, en Birmanie, il y a une harpe. Voilà, la celtique, c'est un peu la harpe médiévale occidentale. Qu'on trouvait beaucoup dans les cours en Irlande, voilà, l'instrument des troubadours.
Et puis ma dernière question, c'est quoi l'actu de Cécile Corbel ?
L'actu, alors je ne sais pas quand est diffusée votre émission.
Elle sera diffusée jeudi chez moi, et puis elle sera diffusée un peu plus tard à la radio.
Ouais, c'est dans les semaines qui viennent. Alors ouais. L'actu de Cécile Corbel, c'est une tournée en Chine qui va commencer là, peut-être à l'heure où vous diffuserez, elle sera en cours ou finie. C'est un des grands moments de mon année parce que c'est assez intense. Et je n'y suis pas allée depuis 2019 en Chine. C'est la tournée en Chine. C'est la sortie d'un nouvel album que j'aurai sans doute avec moi dès cet été, mais qui sera dans les bacs en septembre, autour des légendes arthuriennes. Parce qu'entre deux BO de films, je fais aussi mon propre film d'animation dans ma tête. Là, j'ai beaucoup travaillé sur les personnages de la légende arthurienne. Donc l'album s'appelle Graal, avec... des récits, et en fait je suis assez fière avec un livre illustré, j'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup de recherches avec des textes, etc. Donc c'est un joli objet qui va arriver là cet été ou en septembre, et puis toujours des concerts pour les auditeurs qui sont dans l'Ouest, mais pas que, il y a pas mal de dates à venir. Cette année je vais beaucoup jouer.
Eh bien, merci beaucoup.
Non, c'est moi. Merci pour le temps passé.
Ben, à bientôt, peut-être.
J'espère. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.